Chapitre 22. Adi prit une grande inspiration et se lança.
Je suis né à Shura, une petite ville d'un pays appelé Nicobarèse. Ma mère ne détenait aucun pouvoir magique. C'est ce qu'on nomme un saut de génération. Lindel, ma grand-mère, avait reçu cette bénédiction. Ma mère remerciait les esprits du bien d'avoir été épargnés, mais elle leur en voulait que ce ne soit pas mon cas. En Nicobarèse, on se méfie de ceux qui ont des pouvoirs, car on pense qu'ils ne leur viennent pas seulement du Créateur, mais aussi du Gardien. Même ceux qui les utilisent pour faire le bien passent pour des messagers du fléau. Tu sais de quoi il s'agit, je suppose.
Zed se coupa à main nue un nouveau morceau de pain.
Oui, des êtres qui se sont dévoués aux gardiens. Ils se cachent sous la lumière aussi bien que dans l'obscurité et travaillent à l'accomplissement de ses desseins. Ils portent tous les masques. Certains font le bien des années durant en attendant d'être appelés. Ce jour-là, ils commencent à exécuter la volonté du gardien. On leur donne parfois des noms différents, mais ce sont tous ses agents. D'ailleurs, ils se baptisent parfois ainsi. L'élite, des gens importants comme Darkenral, est réservée aux missions cruciales. Le menu fretin se charge des tâches subalternes et toujours dégoûtantes. Ceux qui ont le don, comme Ral, ne sont pas simples à convertir pour le gardien, mais ils lui sont très précieux.
Darkenral était un messager du fléau.
Il l'a reconnu devant moi, confirma Zed. Il appelait ça être un agent, mais le terme ne fait pas de différence. Tous ces gens servent le gardien.
C'est une terrible nouvelle.
Zed entreprit de saucer son reste de ragoût avec du pain.
J'en apporte rarement d'autres, mais tu me parlais de Lindel, ta grand-mère.
Dans ma jeunesse, les magiciennes étaient mises à mort dès qu'il y avait un malheur. Une épidémie, des accidents, des fausses couches. Exécutées à tort, parce qu'on les prenait pour des messagères du fléau. Certaines refusèrent d'être ainsi persécutées et se battirent. Très bien, faut-il préciser. Cela leur valut plus de haine encore de la part du peuple de Nicobarèse, qui y vit la confirmation de ses craintes. Puis, une trêve fut signée. Les maîtres de Nicobarèse acceptèrent de laisser les magiciennes en paix, si elles prêtaient un serment sur leur âme. Pour prouver qu'elles n'étaient pas des messagères du fléau, elles durent jurer de ne pas utiliser leur pouvoir, sauf si une organisation gouvernementale, par exemple le cercle royal de leur ville, les y autorisait. Elles donnaient leur parole devant le peuple de ne pas attirer l'attention du gardien en recourant à leur pouvoir.
Pourquoi ces gens prenaient-ils les magiciennes pour des messagères du fléau?
Parce qu'il est plus facile, quand ça va mal, de blâmer quelques malheureuses, et plus rassurant d'avoir un coupable que de s'en prendre au destin. Les pouvoirs servent à aider les gens, mais ils sont aussi capables de leur faire du mal. À cause de ça, on estime chez moi qu'ils viennent en partie du gardien.
Imbécilité superstitieuse de crétin,
marmonna Zed.
Comme tu le sais, les superstitions n'ont pas besoin du terreau de la vérité pour pousser. Et une fois enracinées, elles deviennent des arbres tordus mais très solides.
Hélas, oui. Alors, toutes les magiciennes renoncèrent à leur pouvoir?
Oui. Sauf dans l'intérêt général quand le cercle royal local les y autorisait. Toutes ces femmes ont juré devant le conseil de se plier à la volonté du peuple.
Dégoûté, Zed s'arrêta de manger.
Mais elles avaient une forme de don. Comment pouvaient-elles s'interdire de l'utiliser?
Elles s'en servaient seulement en privé. Nulle part où on pouvait les voir et jamais sur quelqu'un d'autre.
Zed se radossa à sa chaise et pensa à la première leçon du sorcier. Que d'âneries pouvaient croire les gens?
Lindel était une femme austère qui ne se mêlait pas beaucoup aux gens. Elle n'a jamais voulu m'enseigner à maîtriser mon pouvoir. Ma mère, évidemment, en était incapable. Alors j'ai appris toute seule à mesure que je grandissais et que mon don se développait. Mais je savais que je ne devais pas recourir à mes pouvoirs. Tous les jours, on me faisait un sermon sur le sujet. Violer cette règle semblait aussi grave que de se vautrer dans la souillure du gardien en personne, et j'y croyais dur comme fer. À l'idée de m'écarter du droit chemin, je mourais de peur. Tu vois, je suis un fruit de l'arbre tordu de la superstition. Un jour, je devais avoir 8 ou 9 ans. J'étais sur la place de la ville avec mes parents un matin de marché. Soudain, un bâtiment a pris feu. Au 2e étage, une fillette d'à peu près mon âge était piégée par les flammes. Elle appelait au secours, mais on ne pouvait rien tenter car tout le 1er niveau était dévoré par l'incendie. Ses cris de terreur me déchiraient le cœur. Désespéré, je voulais l'aider.
Adi croisa les mains sur ses genoux et baissa les yeux.
« J'ai éteint le feu et l'enfant a survécu. »«
Et je suppose, » fit Zed, « que personne n'a été ravi à part la gamine et sa famille. »«
Tout le monde savait qui j'étais. Les gens ont compris ce que j'avais fait. Ma mère s'est pétrifiée et a éclaté en sanglots. » Mon père, lui, a détourné le regard. Il refusait de poser les yeux sur un agent du gardien. Quelqu'un est allé voir ma grand-mère. La population la respectait beaucoup parce qu'elle n'avait jamais failli à mon serment. Lindel nous a conduites, l'enfant et moi, devant le cercle royal. Là, Lindel a fouetté la fillette. Une longue et terrible correction. « Pourquoi a-t-elle fait ça ?»
s'exclama Zed, stupéfait.
« Pour la punir d'avoir aidé le gardien à me pousser à mal agir. Cette petite et moi nous connaissions et nous étions presque des amis. Après, elle ne m'a plus jamais adressé la parole. »
Adi croisa les bras sur son ventre.
« Quand ce fut fini, Lindel m'a déshabillé devant tous ses hommes, et elle m'a aussi donné le fouet, jusqu'à ce que je sois couverte de zébrures et de sang. J'ai crié plus fort que l'autre fillette, quand elle croyait mourir brûlée. Ensuite, Lindel m'a fait traverser la ville, nue et sanguinolente, jusqu'à sa maison. L'humiliation fut pire que les coups. Chez elle, je lui ai demandé comment elle pouvait être aussi cruelle. Elle a baissé sur moi son visage haineux et m'a répondu « Cruel, que veux-tu dire, mon enfant? Tu n'as pas reçu un coup de plus que ce que tu méritais, et pas un de moins qu'il ne le fallait pour empêcher ces hommes de te mettre à mort. » Ensuite, elle m'a forcé à prêter un serment. « Je jure sur mes chances de salut. » De ne plus jamais utiliser mon pouvoir sur quelqu'un, quelle que soit la raison, sans la permission du roi ou d'un de ses cercles, et que mon âme soit livrée au gardien si je me sers un jour de mon don pour faire du mal à quelqu'un. Après, elle m'a rasé les cheveux et a continué à me tondre jusqu'à ce que j'atteigne l'âge adulte. Tondu? Pourquoi? Parce que dans les contrées du milieu, comme tu le sais, la longueur des cheveux d'une femme témoigne de son statut social. Il s'agissait de me montrer et de prouver à tout un chacun que j'étais au plus bas de l'échelle. J'avais utilisé mon pouvoir en public et sans permission. Mon crâne tondu rappelait à tout instant cette infamie. À partir de ce jour, j'ai vécu chez ma grand-mère. Au début, mon père et ma mère, qui me rendaient rarement visite, m'ont beaucoup manqué. Lindel a commencé à m'apprendre à contrôler mon pouvoir pour que je sache ce que je ne devais pas faire. Je ne l'aimais pas, car elle était très froide, mais je la respectais. À sa façon, elle se montrait équitable.
Quand elle me punissait, il y avait toujours une raison. J'avais souvent droit au fouet dès que je m'écartais du droit chemin en toute connaissance de cause. Lindel me formait et me guidait, mais sans jamais me donner de tendresse. Une vie difficile qui m'a appris la discipline et la maîtrise du pouvoir. De cela, je lui serai toujours reconnaissante, car c'est le centre de ma vie. Quelque chose de plus précieux et de plus noble que ma petite personne.
« Je suis navré, Adi, » souffla Zed.
Pour se donner une contenance, il finit son ragoût froid, bien qu'il eût l'appétit coupé. Adi se leva, boitilla vers la cheminée et contempla les flammes en silence.
« Une fois adulte, »
dit-elle enfin,
« j'ai eu droit de laisser repousser mes cheveux. »
Un sourire flotta sur les lèvres de la dame aux ossements.
« À cette époque, mes courbes pleinement épanouies, on me trouvait très séduisante. »
Zed se leva, approcha d'Adi et lui posa une main sur l'épaule.
« Tu l'es toujours, très chère dame. »
Sans tourner la tête, la magicienne posa sa main sur celle du sorcier.
« Je suis tombée amoureuse d'un jeune homme nommé Pell. Il était un peu empoté, mais noble et doux, et il me comblait d'attention. Il aurait vidé l'océan avec une cuillère si je le lui avais demandé. Pell pensait que le soleil brillait pour qu'il puisse m'admirer et que la lune le remplaçait afin de me permettre, dans l'obscurité, de goûter ses lèvres. Mon cœur ne battait plus que pour lui. Nous voulions nous marier, mais le cercle royal de Shura, dirigé par Matrine Galienne, avait d'autres projets. »
Elle lâcha la main de Zed.
Ces gens avaient décidé que j'épouserais un homme d'une autre ville, le fils du maire. En somme, je devenais une monnaie d'échange. Avoir chez eux une magicienne liée par un serment était une garantie de vertu pour ses habitants. Me donner en mariage à un notable d'une plus grande cité profiterait à la nôtre de bien des façons, notamment au niveau des affaires. J'étais paniqué. Alors j'ai supplié ma grand-mère d'intercéder en ma faveur. Lui parlant de Pell, j'ai affirmé ne pas vouloir être utilisé pour faciliter la signature d'un traité commercial. Mon pouvoir m'appartenait, ai-je ajouté, et on ne devait pas le retourner contre moi pour me réduire en esclavage. Comme je te l'ai dit, Lindel était très respectée parce qu'elle respectait son serment à la lettre. Elle était également redoutée et à juste titre. Elle seule pouvait m'aider. Ce n'était pas le genre de personne à s'engager pour les autres, à mon avis,
marmonna Zed.
Peut-être, mais je n'avais pas le choix. Elle m'a demandé de lui laisser un jour de réflexion. Les 24 heures les plus longues de ma vie. Quand je suis revenu la voir, elle m'a ordonné de m'agenouiller et de réciter le serment. Avec plus de sincérité que d'habitude, a-t-elle précisé. J'ai obéi, y compris sur ce dernier point. Quand ce fut fini, toujours à genoux, j'ai attendu le verdict. « Bien que tu sois d'un naturel indomptable, mon enfant, » a-t-elle ajouté, « tu as fait des efforts pour te discipliner. Ton peuple t'a demandé de prêter un serment et tu as obéi. Fasse les esprits du bien que je ne sois plus là le jour où tu manqueras à ta parole. À part ça, tu ne dois rien aux gens de Shura. J'irai parler à Matrine Galienne, et tu épouseras Pell. » J'ai pleuré dans l'ourlet de sa robe, sorcier.
Adi se tut, perdu dans ses souvenirs.
Alors, as-tu épousé ton jeune empoté?
Oui.
Adi décrocha la louche et touilla machinalement le ragoût.
Pendant 3 mois, j'ai été la femme la plus heureuse du monde. »
Le regard vide, la dame des ossements remit la louche en place et ne bougea plus. Zed la prit par les épaules et la guida gentiment jusqu'à la table.
« Assieds-toi, Adi, je vais te faire du thé. »
Elle n'avait pas bougé, les mains croisées sur la table, quand il revint avec 2 tasses fumantes. Il en donna une à Adi et s'assit en face d'elle, attendant qu'elle soit prête à continuer.
« Un jour, » dit-elle enfin, « celui de mon 19e anniversaire, Pelle et moi sommes allés nous promener dans la campagne. J'attendais déjà un bébé. »
Elle leva la tasse et but une gorgée.
« Nous avons passé la journée à traverser des fermes et des champs, nous demandant quel prénom donner à l'enfant. Bien entendu, nous nous tenions par la main et nous rions aux éclats. Tu as été jeune aussi. Tu sais quel genre de bêtises on aime faire quand on est amoureux. Sur le chemin du retour, nous devions passer près du moulin de Choura, à la lisière de la ville. J'ai trouvé étrange qu'il n'y ait personne dans les environs. D'habitude, le coin fourmillait de gens. »
Adi ferma les yeux et prit une nouvelle gorgée de thé.
« Mais j'ai vite découvert que nous n'étions pas seuls. Des hommes du sang de la déchirure nous attendaient. »
Zed avait entendu parler de cette organisation. Dans les cités importantes de Nicobarez, ces miliciens se consacraient à la chasse aux messagers du fléau, pour arracher le mal à la racine, comme ils disaient. Dans d'autres pays, ces fanatiques portaient des noms différents, mais ils agissaient de la même manière. Aucun de ces groupes n'était très regardant sur l'épreuve. Un cadavre suffisait pour démontrer qu'ils avaient bien fait leur travail. S'ils affirmaient que c'était celui d'un messager du fléau, personne ne se risquait à les contredire. Dans les plus petites agglomérations, c'était simplement des bandes de voleurs et de tueurs qui s'autoproclamaient justiciers. Ces hommes étaient universellement redoutés, à juste titre.
« Ils nous ont capturés et enfermés dans des pièces séparées du moulin. Il n'y avait pas de lumière et l'air sentait la pierre humide et la poussière de grain. J'ignorais ce qu'ils avaient fait à Pelle et de terreur, je ne parvenais presque plus à respirer. Matrine Galienne a dit que Pelle et moi étions des messagers du fléau. Notre mariage, selon lui, avait attiré l'attention du gardien sur la région. Cet été-là, une mauvaise fièvre avait tué beaucoup de gens dans les environs. Je me suis défendu de cette accusation et j'ai récité le serment pour prouver ma bonne foi. »
Adi baissa les yeux sur sa tasse, comme si elle ne la voyait pas.
« Bois, mon ami, ça te fera du bien, » dit Zed.
Pour l'aider à se détendre, il avait ajouté une pincée de poudre de baie rouge dans la boisson. Elle but une longue gorgée.
« Matrine Galienne n'en a pas démordu. Belle et moi étions des messagers du fléau et les tombes de nos victimes suffisaient à le prouver. Son seul désir, prétendit-il, était que nous avouions nos crimes. Mais ces hommes tournaient autour de moi comme des chiens prêts à déchiqueter un lièvre, et je mourais de peur pour Pelle. Pendant qu'il me battait, je compris qu'il lui ferait pire encore pour le forcer à me dénoncer. Ils adorent voir quelqu'un trahir un être aimé, et bien entendu, mes dénégations les laissaient de marbre. « Tu ne pouvais rien y changer, Adi, »
la consola Zed.
« Quand on est coincé dans les mâchoires d'un piège, « raisonner avec l'acier n'apporte rien. J'ai payé pour le savoir. Avec mon pouvoir, j'aurais pu arrêter ça, mais ça allait contre tout ce qu'on m'avait enseigné, et je croyais avoir raison. Et il m'aurait semblé avoir blasphémé contre le Créateur. Alors, pendant qu'il me frappait, j'étais aussi impuissante qu'une personne dépourvue de dons. Dans la pièce d'à côté, les cris de Pelle faisaient écho aux miens.
Voyant qu'elle avait vidé sa tasse, Zed se leva et alla la resservir.
Tu n'y étais pour rien, Adi. Ne te sens pas coupable. Il voulait que j'accuse Pell d'être un messager du fléau. J'ai dit que je préférais mourir plutôt que leur donner satisfaction. Matrine s'est penchée sur moi, son visage touchant presque le mien. Quand je ferme les yeux, je vois encore son sourire. « Je te crois, petite, » a-t-il soufflé. « Mais ça n'a aucune importance, c'est ton cher mari que nous voulons faire parler. Pour qu'il t'accuse, car c'est toi la messagère du fléau. » Pendant que ces hommes me tenaient, il m'a fait boire quelque chose qui m'a brûlé la gorge et que j'ai dû avaler. Les entrailles en feu, je ne pouvais plus parler ni crier. Zed, je n'ai jamais eu aussi mal.
Elle but un peu de thé comme pour apaiser cette ancienne douleur.
Après, ces types m'ont conduite dans la salle où était Pell et ils m'ont ligotée à une chaise en face de lui. Matrine me tenait par les cheveux pour que je ne puisse pas bouger. Voir Pell m'a brisé le cœur. Il lui avait coupé presque tous les doigts, phalange après phalange. Le pauvre était blanc comme un linge. Matrine lui a dit que je venais de l'accuser d'être un messager du fléau. Il m'a regardé décomposé. Je voulais crier que c'était un mensonge, mais aucun son n'est sorti de ma gorge et je ne pouvais même pas secouer la tête. Quand Pell a crié qu'il ne les croyait pas, ils lui ont coupé un autre doigt en prétendant agir ainsi uniquement parce que je l'avais dénoncé. Les yeux rivés sur moi, il a répété qu'il ne les croyait pas. Alors, ils ont prétendu que je leur avais demandé de le tuer parce qu'il était un messager du fléau. Il n'a pas craqué, disant sans cesse qu'il m'aimait. Matrine lui a proposé un marché. Si cette accusation était fausse, je n'avais qu'à le dire, et il nous laisserait partir. Hélas, a-t-il ajouté, je ne reviendrai pas sur ma dénonciation, parce que je voulais voir mourir le messager du fléau qui m'avait abusé. Pell m'a hurlé de dire quelque chose et de nous sauver. Mais je ne pouvais pas. La gorge en feu, j'étais incapable de parler, et Matrine me tenait toujours par les cheveux. Pell m'a demandé pourquoi je voulais sa mort, puis il a éclaté en sanglots. Matrine lui a conseillé de m'accuser d'être une messagère du fléau. S'il le faisait, il le croirait, et plus moi, parce que j'étais une magicienne. Alors il serait libre de partir. « Je ne dirai jamais ça, même si elle m'a trahi !» a crié Pell. Ces deux phrases m'ont brisé le cœur.
Alors qu'il détournait le regard un peu gêné, Zed remarqua qu'une bougie sur le plan de travail avait fondu à une vitesse anormale. Des vagues de pouvoir déferlaient du corps d'Adi. S'avisant qu'il retenait son souffle, le vieux sorcier s'autorisa à reprendre une inspiration.
« Matrine a égorgé Pell, » dit la dame des ossements. « Puis il lui a coupé la tête et l'a brandi devant moi. « Voilà, » a-t-il clamé, « ce que ma dévotion pour le gardien avait valu à mon mari, et ce serait la dernière chose que mes yeux maudits auraient vue. « Ces hommes m'ont renversé la tête en arrière et forcé à ouvrir les yeux. « Matrine a versé dedans son liquide brûlant. » J'ai perdu la vue. À cet instant, quelque chose s'est produit en moi. Pell, mon cher amour, était mort en pensant que je l'avais trahi et je n'avais plus que quelques minutes à vivre. Tout ça, ai-je compris, par fidélité à un absurde serment. Mon grand amour, sacrifié à une fichue superstition. Plus rien ne comptait pour moi. J'avais tout perdu. J'ai libéré le pouvoir, exacerbé par ma colère. Oui, Z. J'ai violé ma promesse de ne jamais nuire à autrui. Je n'y voyais plus, mais j'ai entendu leur sang éclabousser les murs. Ne pouvant pas viser, j'ai tué tout ce qui vivait dans la salle, les êtres humains comme les souris, et je me félicitais d'être aveugle. Devant un tel spectacle, j'aurais pu être tenté de m'arrêter. Quand le calme fut revenu, je me suis détaché et j'ai fait le tour de la pièce pour compter les cadavres. Il en manquait un. Ne me demande pas comment, mais j'ai réussi à aller chez Lindel. Peut-être le don m'a-t-il guidé. Quand elle m'a vu, elle m'a forcé à m'agenouiller et à demander si j'avais violé mon serment.
« Tu ne pouvais pas parler ?» souffla Zed. « Comment lui as-tu répondu ?»
Adi eut un sourire glacial.
« Je l'ai saisi à la gorge avec mon pouvoir et propulsé contre un mur. Puis j'ai avancé, décidé à l'étrangler. Elle a résisté en mobilisant son pouvoir, mais j'étais tellement plus forte qu'elle. Jusqu'à ce jour, j'ignorais que le don se manifestait de façon différente chez les gens. Lindel était aussi impuissante qu'une marionnette. Mais je n'ai pas pu lui faire aussi mal que je le voulais. Pourtant, je la détestais d'avoir d'abord pensé à son maudit serment alors que j'étais à demi morte. Je l'ai lâchée et je me suis laissé glisser sur le sol. Lindel s'est approchée pour me soigner. Violer mon serment était mal, a-t-elle dit, mais les actes de ces hommes étaient pires encore. Je n'ai plus jamais eu peur de ma grand-mère. Pas parce qu'elle m'avait aidé, mais parce que j'avais violé le serment. Libéré de ce carcan, je n'avais plus peur de rien, et je me savais beaucoup plus puissante qu'elle. À partir de ce moment-là, c'est elle qui a tremblé devant moi. Je crois qu'elle m'a soigné pour que je puisse quitter au plus vite sa maison. Quelques jours plus tard, elle m'a annoncé en rentrant qu'elle avait subi un interrogatoire devant le cercle royal. Tous les hommes du moulin étaient morts, à part Matrine. Elle avait prétendu ne pas m'avoir revue. Les notables la crurent, ou firent semblant pour ne pas devoir l'affronter, en plus de la magicienne qui venait de faire un massacre.
Ses épaules se détendant, Adi regarda un instant son thé et en prit une nouvelle gorgée. Puis elle tendit sa tasse à Zed pour qu'il ajoute un peu de liquide. Le vieil homme s'exécuta en regrettant de ne pas avoir mis de poudre dans sa propre tasse, car l'histoire ne s'arrêtait sûrement pas là.
« J'ai perdu mon bébé !»
lâcha Adi de sa voix râpeuse.
« Je suis navré. Je sais. »
Dès qu'il eut posé la théière, Adi prit la main du sorcier entre les siennes.
« Ma gorge a guéri. »
Elle lâcha Zed et noua ses doigts autour de son cou.
« Ça m'a laissé une voix qui évoque du fer raclant contre un rocher. » J'aime bien ça. Le fer est un métal qui te convient bien.
L'ombre d'un sourire passa sur les lèvres d'Adi.
Mes yeux, en revanche, ne se sont jamais améliorés. Je suis resté aveugle. Lindel n'était pas aussi forte que moi, mais à son âge, elle en connaissait long sur les possibilités du don. Elle m'a appris à voir avec le pouvoir. Ce n'est pas tout à fait comme une vision normale, mais sur certains plans, c'est bien mieux. En un sens, je vois plus de choses que le commun des mortels. Dès que je fus guéri, Lindel me demanda de partir. Elle détestait garder sous son toit quelqu'un qui avait violé le serment, fût-ce sa petite fille. Elle craignait que ça lui vaille des ennuis, parce que j'avais attiré l'attention du gardien et celle des fanatiques. Bref, je risquais de lui empoisonner la vie. Et elle avait vu juste? Pour ça, oui. Les ennuis n'ont pas tardé. Matrine Galienne s'en est chargée. Il est venu avec 20 fanatiques payés par la couronne. Des professionnels endurcis et sans pitié, armés jusqu'aux dents, qui paradaient sur des destriers blancs. Bon sang, qu'ils avaient fière allure avec leurs armures scintillantes, leurs côtes de maille et leurs haumes ornées de plumes rouges. Debout sur le porche, avec mes nouveaux yeux, je les ai vus prendre position devant moi comme s'ils manœuvraient sous le regard du roi. Tous les chevaux marchaient au même pas et aucun poitrail ne dépassait des rangées, une superbe démonstration. Quand ils eurent fini, Matrine prudemment postée derrière eux, le capitaine a déclaré
« Vous êtes en état d'arrestation. Accusé d'être une messagère du fléau, vous serez exécuté comme l'exige la loi. »
Adi s'arracha au fantôme du passé et ses yeux croisèrent ceux de Zed.
« J'ai pensé à mon pauvre Pelle. »
L'expression de la Dame des Ossements se durcit.
« Ils sont tous morts. » Avant d'avoir dégainé leurs épées ou levé leurs lances. J'ai frappé de gauche à droite, un homme après l'autre, à la vitesse de l'éclair. Tous sont tombés de selle, sauf le capitaine, impassible au milieu de ce jeu de massacre. Quand tous ces hommes eurent péri, j'ai croisé son regard. Les armures,
ai-je dit,
ne servent à rien face à une messagère du fléau ou à une magicienne. Elles sont seulement efficaces contre les innocents. Ensuite, je l'ai chargé de délivrer au roi un message de la part d'une magicienne nommée Adi. Sans tressaillir, il m'a demandé lequel. S'il envoie d'autres hommes du sang de la déchirure contre moi, ce sera le dernier ordre qu'il aura donné de sa vie. Le capitaine m'a regardé un long moment, sans trahir une once d'émotion, puis il a fait volter son cheval et s'est éloigné. Ma grand-mère m'a renié. Elle m'a ordonné de partir de chez elle et de ne jamais revenir.
Zed ne put s'empêcher d'esquisser une grimace à l'idée qu'une magicienne ait pu tuer des hommes de cette façon. Il était très rare que ces femmes-là aient autant de pouvoir.
« Et Matrine, tu ne l'as pas tuée ?»« Non, je l'ai pris avec moi. »« Pris avec toi ?»« J'ai lié sa vie à la mienne. » Je me suis arrangé pour qu'il sache toujours où j'étais et qu'il vienne me retrouver à chaque nouvelle lune, qu'il le veuille ou non, il devait me suivre d'assez près pour pouvoir le faire.
Pensif, Zed sonda le fond de sa tasse de thé.
Jadis, j'ai rencontré un homme à Winstead, la capitale du royaume de Kelton, un mendiant nommé Matrine. Il lui manquait les doigts d'une main et il était aveugle. Logique, puisqu'on lui avait arraché les yeux. C'était lui. À chaque nouvelle lune, il venait me voir et je l'amputais de quelque chose, laissant ses cris tenter de remplir le vide qui était en moi.
Zed se radossa à son siège. Une femme de fer, vraiment.
« Ainsi tu t'étais établi en Kelton ?»« Non, je ne m'étais fixé nulle part. Je voyageais sans cesse, à la recherche de femmes dotées des mêmes pouvoirs que moi, pour apprendre à leur contact. Chacune savait peu de choses, mais toutes m'enseignaient au moins un nouveau détail. Matrine me suivait fidèlement. Tous les mois, je coupais une nouvelle partie de son corps. » Je voulais qu'il vive et souffre jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui m'a frappé sur le ventre, tuant l'enfant que m'avait donné Pelle. Lui qui a exécuté mon aimé et m'a privé de la vue. Et surtout, c'est à cause de lui que Pelle est mort en se sentant trahi. J'aurais voulu que Matrine Galienne ne cesse jamais de souffrir.
Et combien de temps a-t-il tenu?
Pas beaucoup, et beaucoup trop. Un jour, une idée m'a frappé. Je n'avais pas utilisé mon pouvoir pour l'empêcher de se suicider. Pourquoi continuait-il à venir et à souffrir ainsi? Il aurait été si simple de mettre un terme à son calvaire. Le mois suivant, après l'avoir amputé, j'ai annulé le lien. Sa compulsion de revenir, si tu préfères, en lui permettant de m'oublier complètement s'il le désirait.
Et tu ne l'as plus jamais revu?
C'est ce que j'attendais. Mais il fut ponctuel au rendez-vous suivant. Alors que plus rien ne l'y obligeait. Hors de moi, j'ai décidé qu'il était temps de le tuer, mais avant, j'entendais savoir pourquoi il était revenu. Pendant mes voyages, j'avais appris des choses dont je pensais n'avoir jamais à me servir. Cette nuit-là, elles me furent utiles pour découvrir quelle torture était le pire cauchemar de Matrine Galienne. À l'origine, ces méthodes servent à découvrir les angoisses d'un individu, mais d'autres secrets sortent avec. Contre sa volonté, il a parlé sans aucune retenue. Je l'ai laissé suer d'angoisse toute la nuit, plus la journée du lendemain, pendant que j'allais chercher les créatures qui le rendaient fou de peur. Quand je suis revenu, il avait presque perdu l'esprit à l'idée de ce qui l'attendait. Alors, je lui ai demandé de me confier son plus grand secret. Mais il a refusé. J'ai vidé mon sac, posant devant lui les cages, les paniers et les jarres, tandis qu'il tremblait de terreur, nu sur le parquet. Je lui ai montré chaque petite prison et décrit ce qu'il y avait dedans. Au bord de la folie, il a encore refusé de répondre à ma question. Il pensait sans doute que je bluffais, mais il se trompait. M'endurcissant encore, j'ai concrétisé ses pires angoisses.
Zed frémit, mais la curiosité l'emporta sur l'horreur.
Comment? Cela, je ne te le dirai pas. De toute façon, ça n'a aucune importance. Matrine refusait de parler. Il souffrait tellement que je faillis renoncer plusieurs fois. Mais alors, je repensais à la dernière image que mes yeux avaient vue. La tête de Pelle au bout du bras de Matrine. Et je me souvenais des derniers mots de mon mari. Je ne dirai jamais ça, même si elle m'a trahi.
Adi ferma les yeux un instant, puis elle les rouvrit et continua.
Matrine était aux portes de la mort, et je pensais qu'il ne m'avouerait pas pourquoi il était revenu me voir librement. Mais juste avant d'expirer, il est redevenu serein malgré le calvaire qu'il subissait. Alors il a soufflé qu'il allait tout me dire puisque sa vie touchait à sa fin. J'ai de nouveau posé ma question. Il a approché sa bouche de mon oreille. « N'as-tu pas compris, Adi? Ne sais-tu pas qui je suis? Un messager du fléau, caché sous ton nez depuis tout ce temps. Grâce au lien entre nous, le gardien a toujours su où tu étais. » Et il convoite particulièrement les gens qui ont des pouvoirs. J'avais pensé à cette possibilité. Être un messager du fléau, lui ai-je dit, ne lui avait rien valu de bon puisqu'il allait mourir pour expier ses crimes. Il m'a souri. Oui, tu as bien entendu, sorcier, il m'a souri, et il a lâché. Tu te trompes, Adi. Je n'ai pas échoué, bien au contraire. Ma mission est un succès, et la volonté du gardien a été accomplie. Le plan a commencé il y a si longtemps, et tout s'est déroulé selon mes prévisions. Cela me vaudra une récompense. Adi, c'est moi qui ai allumé l'incendie quand tu étais enfant. Plus tard, j'ai torturé et tué Pell, pas parce que je le prenais pour un messager du fléau. Évidemment, puisque c'était moi, j'ai fait tout ça pour que tu violes ton serment et que tu accueilles la haine du gardien dans ton cœur. Vois à quel point j'ai réussi. Tu as d'abord oublié ton serment pour sauver une vie, puis pour te venger. Et à présent, chaque jour tu te rapproches un peu plus du gardien. Aujourd'hui tu es entre ses mains. Même si tu ne lui as jamais juré allégeance, tu travailles à sa gloire. Tu es devenu ce que tu es le plus au monde, quelqu'un comme moi. Le gardien te sourit, Adi. Et il te remercie de lui avoir fait une place dans ton cœur. Sur ces mots, Matrine a rendu son âme à son ignoble maître.
Adi éclata en sanglots. Zed se leva, approcha d'elle et lui passa un bras autour des épaules.
Cet homme t'a menti, très chère dame. Il n'en va pas ainsi, pas du tout.
Adi s'essuya les yeux et secoua la tête.
« Tu te crois plus intelligent que tout le monde, sorcier. Pourtant, sur ce sujet, tu te trompes. »
Zed s'agenouilla près de la chaise de son ami.
« Je suis assez intelligent pour savoir que le gardien ou un de ses sbires ne t'aurait pas donné la satisfaction de savoir que tu avais remporté une bataille contre lui. Mais... tu t'es défendu, Adi. Puis tu as frappé à cause de ta douleur, pas par perversité, ni pour aider le gardien. Tu en es sûr? Assez pour me faire confiance? Absolument sûr. Je ne suis pas omniscient, mais je sais que tu n'es pas une messagère du fléau. Tu es une victime, Adi, pas une criminelle. J'aimerais en être aussi convaincu que toi. Après la mort de Matrine, as-tu continué à massacrer? T'es-tu vengé sur des innocents? Bien sûr que non. Si tu avais été un agent, pourquoi t'arrêter là? Tu aurais servi ton maître et frappé ceux qui s'opposaient à lui. Tu n'es pas une messagère du fléau, très chère dame. Mon cœur saigne en pensant à ce que le gardien t'a pris, mais il n'aura pas ton âme. Cesse de t'angoisser à ce sujet. « Tu me resserres du thé ?»
demanda Adi d'une toute petite voix.
« Mais sans ajouter de poudre, sinon je m'endormirai avant d'avoir fini mon histoire. »
Zed fronça les sourcils. Ainsi, elle n'avait pas été dupe de son manège. Il se leva, remplit une tasse, la donna à Adi et se rassit en face d'elle. Après avoir bu, la dame des ossements sembla un peu requinquée.
La guerre contre Dara faisait encore rage à l'époque, mais elle approchait de sa fin. J'ai senti la frontière naître dans notre monde. Tu es venu ici juste après son apparition? Non. J'ai d'abord étudié avec quelques femmes très talentueuses. Certaines m'ont appris pas mal de choses sur les eaux.
Elle tira un pendentif de sous son col et caressa le petit os rond aux rayures jaunes et rouges. Le double parfait de celui qu'elle avait remis à Zed avant qu'il traverse la frontière.
Cet os vient de la base d'un crâne identique à celui que tu vois sur cette étagère. Oui, celui qui est tombé. Il vient d'un monstre appelé Skryn. Ces créatures gardent le royaume des morts. Un peu comme les chiens à cœur, si ce n'est qu'elles sévissent dans les deux directions. L'explication la plus simple, même si elle reste imprécise,
et qu'elles sont une part du voile. Dans ce monde, elles ont une forme et une substance. Dans l'autre, elles sont seulement une force.
Une force ?
Répéta Zed, perplexe. Adi prit sa cuillère et la laissa tomber sur la table.
Comme celle-là ? Nous ne la voyons pas, mais elle existe. C'est elle qui fait tomber la cuillère et l'empêche de léviter dans les airs, invisible mais présente. C'est un peu la même chose avec les Skrines. Très rarement, ils sont attirés dans notre monde pour remplir leur mission, éliminer tous les êtres qui rôdent dans la zone où le royaume des morts et le territoire des vivants se touchent. Peu de gens les connaissent, car ça n'arrive vraiment pas souvent.
Zed parut perdu.
C'est très compliqué, et j'entrerai dans les détails une autre fois. L'essentiel est de savoir que cet os de Skrin est une protection contre ceux de sa race.
Adi but une nouvelle gorgée de thé. Zed tira son propre pendentif de sous sa tunique et l'étudia d'un tout nouvel œil.
Il doit agir contre d'autres monstres, puisqu'il permettait de traverser le passage du roi.
Adi acquiesça.
Au fait, comment connaissais-tu l'existence de ce chemin ? J'ai érigé la frontière et je l'ignorais. Après avoir quitté ma grand-mère, j'ai cherché à contacter d'autres magiciennes qui pourraient m'en apprendre plus long sur le royaume des morts. Après la fin de ma trine, j'ai étudié plus intensément que jamais. Chaque femme apprenait un petit quelque chose et me disait où trouver une collègue qui en saurait davantage. Ainsi, j'ai traversé les contrées du milieu, accumulant de plus en plus de connaissances. Quand je les ai réunies, ça m'a permis de comprendre un peu mieux les interactions entre les mondes. Ériger une frontière dans notre univers revient un peu à mettre une théière hermétiquement bouchée sur un feu. Sans soupape, elle finit par exploser. S'il existait une magie assez puissante pour attirer chez nous une partie du royaume des morts, je devais trouver un moyen d'empêcher l'explosion. Une sorte de soupape, si la comparaison te plaît. Le passage du roi.
Bien sûr,
marmonna Zed.
Ça tient la route, l'équilibre. Toute force ou toute magie doit avoir un équilibre.
Adi, quand j'ai invoqué la frontière, j'ai utilisé un pouvoir que je ne comprenais pas entièrement. Il me venait d'un antique grimoire qui appartenait au sorcier de jadis, dont la puissance me dépasse de beaucoup. Créer la frontière était un acte de désespoir.
Toi ? Désespéré, c'est difficile à imaginer.
Parfois, la vie se résume à cela, une série d'actes de désespoir.
Tu as peut-être raison.
Voulant me dissimuler aux yeux du gardien, j'ai repensé à ce que Matrine avait dit.
Un messager du fléau, caché sous ton nez depuis tout ce temps.
Selon cet exemple, l'endroit le plus sûr pour échapper aux gardiens était, sous mon propre nez, à la frontière de son royaume. Alors je suis venu ici. Le passage du roi n'appartient pas à ce monde et pas davantage à l'autre. En fait, c'est un endroit où ils se chevauchent. Grâce aux ossements, le gardien et ses monstres ne peuvent pas me voir.
« Tu serais ici simplement pour te cacher ?»
demanda Zed, certain qu'il y avait autre chose là-dessous. Adi était une femme de fer, pas le genre à se tapir dans un trou de souris.
« Il y a une autre raison, »
admit-elle en remettant le pendentif sous sa tunique.
« Je me suis fait un serment, à moi seul. Entrer en contact avec Pell. » Pour lui dire que je ne l'ai pas trahi. Depuis des décennies, c'est mon seul but et mon unique raison de vivre. La frontière et le passage n'existent plus, mon ami. Et j'ai besoin de ton aide dans ce monde.
Zed, Quand tu m'as redonné un pied, tous mes souvenirs sont remontés à la surface, aussi vifs que si je les revivais. Des choses oubliées me sont revenues à l'esprit, et cela a rouvert des blessures qui semblaient cicatriser. Désolé, Adi. J'aurais dû penser à ça, mais je n'ai pas imaginé que tu avais tant souffert. Pardonne-moi.
Il n'y a rien à pardonner. Ce nouveau pied est une bénédiction, et tu ne pouvais pas savoir que j'étais une messagère du fléau.
Zed foudroya son ami du regard.
Donc, tu penses qu'avoir combattu le mal fait de toi un de ces suppôts?
Mes actes sont trop affreux pour qu'un homme comme toi puisse les comprendre.
Tu crois ça?
Le vieux sorcier hocha tristement la tête.
Alors, laisse-moi te raconter une petite histoire. Moi aussi j'ai connu l'amour, comme toi avec Pell. Ma bien-aimée se nommait Eriline, et j'ai partagé avec elle les mêmes joies que toi avec ton prince charmant.
À ce souvenir, un petit sourire flotta sur les lèvres du sorcier, mais il disparut vite.
Jusqu'à ce que Panisral envoie un quatuor à ses trousses.
Zed, tu n'es pas obligé de...
Laisse-moi finir. Tu ne peux pas imaginer ce que ces brutes lui ont infligé.
Pour la première fois, Adi vit le vieil homme s'empourprer de colère.
Je les ai traqués. Et ce qu'ils ont subi ferait passer le supplice de Matrine pour une promenade de santé. Puis, j'ai voulu frapper Panisral, mais il était hors de ma portée, alors je m'en suis pris à ses armées. Pour chaque homme que tu as tué, Adi, j'en ai éliminé un millier. Même mes alliés me redoutaient. J'étais le vent qui charrie la mort. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour vaincre Panisral, et sans doute un peu plus.
Il se radossa à sa chaise.
S'il existe en ce monde un parangon de vertu, ce n'est pas l'homme assis en face de toi.
Tu as agi comme il le fallait. Cela n'entame pas ta vertu.
Des propos très intelligents tenus par une femme de qualité.
Zed plissa le front, il prit sa tasse et joua avec la faisant rouler entre ses mains.
Tu devrais peut-être les appliquer à ton propre cas.
Adi ne broncha pas.
En un sens, j'ai eu plus de chance que toi. Eriline et moi avons vécu assez longtemps ensemble, et je n'ai pas perdu ma fille.
Panisral n'a pas tenté de la tuer?
Si. Et il a même cru avoir réussi. Mais j'ai jeté un sort de mort pour que ses sbires et lui croient l'avoir vue sans vie.
C'était la seule façon de la protéger, sinon il aurait essayé sans relâche et fini par réussir.
Un sort de mort ?
Adi récita une bénédiction dans sa langue natale.
Une toile très dangereuse. Je ne te reprocherai pas d'y avoir recouru dans ces circonstances, mais ce genre de sortilège n'échappe pas à l'attention des esprits. Tu as eu de la chance que ça fonctionne. Et que les esprits du bien aient été de ton côté ce jour-là.
Parfois, la chance a un revers, et on ne sait jamais quelle face on regarde. Je l'ai élevée seule et c'était une superbe jeune femme quand la roue de la fortune a tourné. Darkenral était près de son père quand j'ai envoyé mon feu de sorcier à travers la frontière. Lui aussi fut brûlé. Il a passé des années à étudier sans pouvoir achever l'œuvre de son géniteur, et il a trouvé un moyen de traverser la frontière. Lors d'un de ses raids, il a violé ma fille. Bien sûr, il ne savait pas que c'était elle, tout le monde la croyait morte, sinon il l'aurait tuée, mais il lui a fait tellement de mal.
Le vieil homme serra les mains, brisant la tasse qu'il avait oubliée. Il examina ses paumes et ses doigts en quête de coupure, mais fut un peu surpris de ne pas en voir. Adi ne fit pas de commentaire.
Après, je l'ai envoyée en terre d'Ouest pour la protéger. Je n'ai jamais su si c'était de la malchance ou si le mal l'avait retrouvée, mais elle est morte dans l'incendie de sa maison. Bien que cette coïncidence, les flammes, m'ait toujours paru suspecte, Je n'ai jamais découvert de preuves, mais les esprits du bien, après tout, n'étaient peut-être pas de mon côté le jour où j'ai lancé le sort de mort.
Je suis navré, Zed.
Merci. Mais là encore, j'ai eu plus de chance que toi, car il me restait son fils.
Du bout de l'index, il poussa les débris de la tasse au centre de la table.
L'enfant de Darkenral, le rejeton d'un agent du gardien, mais aussi mon petit-fils, innocent des crimes de ses ancêtres, un jeune homme formidable.
Il chercha le regard blanc d'Adi.
« Je crois que tu le connais. Il se nomme Richard. »
Adi bondit de sa chaise.
« Richard ? Richard est-on ?»
Elle se rassit et soupira.
« Les sorciers, leur foutu secret. Cela dit, tu avais peut-être de bonnes raisons de jouer les cachotiers. J'avais peur qu'il ait le don. » Mais je n'en étais pas sûr et je voulais le protéger. Comme tu l'as dit, le gardien convoite plus que tout au monde ceux qui ont des pouvoirs. Si j'avais commencé à le former, donc à utiliser beaucoup de magie, il aurait été en danger. J'avais prévu de le laisser grandir et s'endurcir avant de le tester et de l'entraîner si ça s'imposait. Au fond, j'espérais qu'il n'ait pas le don, mais il s'en est servi pour vaincre Ral. À présent, il n'y a plus de doute. Et je pense qu'il a hérité le don de deux lignées de sorciers, la mienne et celle des Ral.
Je vois,
fit simplement Adi.
Mais nous avons des problèmes plus urgents sur les bras. Darkenral a ouvert une des boîtes d'Orden, la mauvaise malheureusement pour lui, et peut-être aussi pour nous. Il y a dans ma forteresse des livres qui parlent de tout ça. Quand les boîtes d'Orden sont remises dans le jeu, même si le responsable se trompe et y perd la vie, le voile risque d'être déchiré. Adi, je n'en sais pas aussi long que toi sur le royaume des morts. Tu as étudié presque toute ta vie et j'ai besoin de ton aide. Viens consulter les livres avec moi, en Aedindril, pour que nous trouvions une solution. J'ai été dépassé par la plupart de ces textes. Même si tu comprends une seule chose de plus que moi, ça fera peut-être la différence.
« Sorcier, je suis une vieille femme qui a accueilli le gardien dans son cœur. »
Zed essaya de croiser le regard d'Adi, mais elle garda la tête baissée. Exaspéré, il se leva d'un bond.
« Une vieille femme, certainement pas. Une folle, c'est bien possible. »
Adi ne réagit pas. Le sorcier traversa la pièce et inspecta les os qui décoraient les murs, les mains croisées dans le dos.
Et si j'étais moi aussi un vieil homme, voire un vieux crétin, quelqu'un qui devrait laisser un type plus jeune faire le travail à sa place?
Zed jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et constata que la dame des ossements le regardait.
Mais si un jeune homme fait l'affaire, quelqu'un d'encore plus frais serait sans doute préférable. Pourquoi ne pas choisir un enfant? « Idéal, non? Il doit bien y avoir quelque part un gamin de 10 ans prêt à empêcher les morts de dominer les vivants. »
Il leva les bras au ciel.
« À t'en croire, la jeunesse prime et l'expérience comptent pour du beurre.
Ne te fais pas plus bête que tu ne l'es, vieil homme. Tu sais ce que je veux dire. »
Zed revint vers la table et haussa les épaules.
Si tu restes ici au lieu de mettre ton savoir au service d'une juste cause, il se peut que tu sois ce que tu redoutes le plus, un agent du gardien. Quand on ne le combat pas, on le soutient. C'était la finalité de son plan. Pas te convertir, mais t'empêcher par la peur de l'arrêter.
Que veux-tu dire?
Il a réussi son coup, Adi. Tu as peur de toi-même. Le gardien a des réserves infinies de patience. Il n'a pas besoin de te recruter. Convertir ceux qui ont des pouvoirs est difficile. Tu n'en vaux pas la peine. Il lui suffit de savoir que tu ne t'opposeras pas à lui, et ça, il l'a obtenu. En un sens, il est aveugle à ce monde, comme nous sommes aveugles au sien. Il a peu d'influence ici, donc il choisit ses objectifs avec soin et ne perd pas de temps en frivolité.
Tu n'es peut-être pas aussi abruti que ça,
fit Adi, une manière détournée de concéder le point.
C'est ce que je pense depuis toujours,
dit Zed en s'asseyant. Adi réfléchit un long moment en silence.
Toutes ces années, dit-elle enfin, la vérité était sous mon nez et je ne la voyais pas. Comment fais-tu pour être aussi malin?
Un des avantages d'une longue vie. Tu crois être une vieille femme.
Moi, je vois une superbe dame qui a beaucoup appris durant son passage sur cette terre et acquis une grande sagesse.
Il retira la fleur des cheveux d'Adi et la brandit devant elle.
Ta beauté n'est pas une couche de vernis passé sur un bois usé. Elle s'épanouit à l'intérieur de toi.
Adi prit la fleur et la posa sur la table.
Tes belles paroles ne changent rien au fait. J'ai gâché ma vie et...
Non,
coupa Zed.
Tu n'as rien gâché du tout. Pour l'instant, tu n'as pas encore vu l'autre côté des choses. C'est tout. Il y a un équilibre en tout si on fait l'effort de le chercher. Le gardien t'a envoyé un agent pour que tu ne te mêles pas de ses affaires et pour semer dans ton esprit la graine du doute qui te pousserait peut-être à passer un jour dans son camp. Mais là aussi, on retrouve notre fameux équilibre. Afin de contacter Pell, tu es venu ici étudier le royaume des morts. Ne comprends-tu pas, Adi? On t'a manipulé pour que tu ne gênes pas le gardien, et cela t'a conduit à apprendre des choses qui nous seront utiles pour le combattre. Tu ne dois pas baisser les bras, mais te battre avec les armes qu'il t'a involontairement données.
Adi regarda autour d'elle, s'attardant sur les piles d'eau, les talismans accrochés au mur, le crâne et les talismans rangés sur les étagères.
« Mais mon serment appelle. Je dois lui parler. » Il est mort en croyant que je l'avais trahi. Si je ne peux pas me racheter à ses yeux, je serai perdu, le cœur brisé. Alors le gardien me trouvera. Pell est mort, Adi. Parti à tout jamais, comme la frontière et le passé. Et toutes les années que tu as passées ici ne t'ont pas permis d'atteindre ton but. Ces lieux ne te sont plus d'aucune utilité, mon ami. Si tu veux tenir ta promesse, viens avec moi. En Aïdindril, ce sera peut-être possible. M'aider à vaincre le gardien ne t'oblige pas à renoncer à ce qui te tient à cœur. Si mes connaissances peuvent te servir, je les mettrai volontiers à ta disposition. Tu sais, j'ai quelques atouts dans ma manche. Après tout, je suis le premier sorcier, pas n'importe quel vieux crétin. « Mon remarquable cerveau pourra peut-être te servir, et je suis sûr que Pell ne voudrait pas, pour lui délivrer ton message, que tu trahisses le reste de l'univers. »
Adi ramassa la rose jaune et la contempla un long moment avant de la reposer. Agrippant les coins de la table, elle se releva lentement et resta là un moment, son regard faisant de nouveau le tour de la pièce. Après avoir lissé sa tunique, comme pour se rendre présentable, elle contourna la table en boitillant, vint se camper derrière la chaise de Zed et lui posa les mains sur les épaules. Sans crier gare, elle se pencha et lui embrassa le sommet du crâne, puis elle lui ébouriffa gentiment les cheveux. Le vieux sorcier se réjouit qu'elle ne lui ait pas plutôt noué les doigts autour du cou. Ça aurait été légitime après certaines de ses déclarations. Il se tortilla sur sa chaise et se tourna vers Adi.
« Je ferai mon possible pour que tu puisses parler à Pell, je te le jure. »« Merci. À présent, dis-moi un peu plus sur la pierre des larmes. »« Nous devons décider de son sort. »